Didi avait le vent en poupe, elle le sentait. D'abord la conversation avec Wayne Reynolds, puis l'audition de Maxwell Black. L'enquête se nouait, des pièces maîtresses du puzzle se mettaient en place. Dès qu'ils avaient eu fini de parler avec le père de Sandy Jones, Didi avait balancé la photo de Jason Jones au Centre national pour les enfants disparus et exploités, de même qu'au GBI, l'antenne du FBI en Géorgie. Elle commençait à avoir un profil solide. Pseudonyme connu, origine géographique possible, données financières et dates clés. Jason avait laissé beaucoup de traces écrites ces 5 dernières années après avoir disparu de l'écran radar. À présent, ils étaient en train de réunir les bribes d'informations nécessaires pour mettre son identité au jour et, en particulier, découvrir l'origine de ses placements offshore. À l'heure qu'il était, Didi aurait parié qu'un autre service de police dans une autre circonscription avait exactement le même dossier qu'elle, mais pas sous le même nom. Dès qu'elle entrerait en contact avec ce service, Jason Jones Johnson serait enfin démasqué et Didi tiendrait son arrestation. De préférence à temps pour les infos de 23 heures. En attendant, il continuait bien sûr à creuser les pistes classiques. Didi était d'ailleurs en train de parcourir plusieurs rapports sur les pièces à conviction, notamment les premières conclusions concernant du sang, retrouvées à l'état de traces sur l'édredon qu'ils avaient retiré de la machine à laver des Jones. Malheureusement, du sang à l'état de traces ne faisait pas bien sur un mandat. Cet état de traces signifiait-il que le reste était parti à la machine ou que Sandra Jones avait saigné du nez au cours des dernières semaines ? Le groupe sanguin correspondait à celui de Sandra, mais comme on ne connaissait pas celui de Jason et Clarissa, théoriquement, ce sang pouvait aussi bien être le leur. Autrement dit, le rapport en lui-même ne les avançait guère, mais peut-être que plus tard, associé à d'autres éléments probants, il deviendrait un barreau de plus de la prison qu'il commençait, lentement mais sûrement, à ériger autour de Jason Jones. Didi contacta l'équipe du BRIC chargée d'analyser l'ordinateur des Jones. Vu l'urgence, l'équipe travaillait 24 heures sur 24. Créer une copie du disque dur exploitable à des fins d'analyse avait pris la majeure partie de la nuit. À présent, il sortait rapport après rapport en se concentrant sur la messagerie électronique et la navigation sur Internet. Ils espéraient rendre leur première conclusion dès Potron-Minet. Didi eut alors bon espoir, si elle ratait le journal de 23 heures, d'être prête pour le cycle d'information du matin. C'était le genre de dynamique qui faisait plaisir à un commandant de la criminelle et donnait à toute la brigade la motivation nécessaire pour travailler encore une longue nuit après déjà 2 soirées très prolongées. Mais cela n'expliquait pas forcément l'intérêt soudain de Didi pour Maxwell Black, ni le besoin qu'elle éprouvait de se pencher sur la mort de Missy Black, qui avait eu lieu 8 ans plus tôt. Le bureau du shérif l'informa qu'il n'y avait pas eu d'ouverture de dossier dans cette affaire, mais lui donna les coordonnées du médecin légiste du comté, qui serait joignable le lendemain matin. Le verdict officiel avait été le suicide, mais le soupçon d'hésitation du shérif avait entretenu la curiosité de Didi. Elle avait un problème avec Maxwell Black. Sa voix traînante, son charme, sa manière terre-à-terre de décrire sa fille unique comme une jeune femme irresponsable, menteuse invétérée et dévergondée. Didi était frappée du fait que Sandy avait passé les 2 premiers tiers de sa courte existence avec un père extraverti qui en disait trop et le dernier tiers avec un mari qui menait une vie très cloisonnée et n'en disait pas assez. Le père accusait le mari d'être pédophile. Le mari suggérait que le père avait été complice de maltraitance d'enfants. Didi se demandait si Sandra Jones avait aimé son mari. Si elle l'avait vu comme son chevalier blanc, son vaillant sauveur, jusqu'à ce mercredi soir où elle avait été violemment et tristement dépouillée de ses illusions. Sandra Jones avait disparu depuis maintenant 3 jours. Didi ne croyait pas retrouver la jeune mère vivante. À ce stade, elle espérait surtout sauver Ree. Ethan Hastings était en pleine crise de conscience. Cela ne lui était jamais arrivé. Comme il était plus intelligent que tous les adultes qu'il connaissait, l'adolescent portait sur eux un regard naturellement condescendant. Ce qu'il n'était pas capable de comprendre, il n'avait pas besoin de le savoir. Mais là, assis par terre avec l'iPhone de sa mère, l'incident de la veille au collège avait entraîné une privation totale d'ordinateur pendant 1 mois, mais concrètement, personne ne lui avait interdit de fouiller dans le sac de sa mère. Il lisait des courriels en se demandant s'il devrait prévenir la police. Ethan s'inquiétait pour Madame Sandra. Il s'inquiétait depuis le mois de novembre, Depuis qu'il avait compris que son intérêt pour la sécurité sur Internet allait bien au-delà de ce qu'il pourrait être nécessaire de savoir pour un cours de technologie en sixième. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle soupçonnait son mari, ce qui signifiait bien sûr qu'il était le coupable le plus vraisemblable. De la même façon, elle n'avait jamais prononcé le mot de cyberpornographie, mais là encore, qu'est-ce qui pourrait inciter une jolie enseignante à passer toutes ses heures de battement à travailler avec un garçon comme lui ? Oh, elle se montrait gentille. Elle savait qu'il la vénérait, parce qu'il n'était pas trop doué pour cacher ces choses-là. Mais il avait reçu son message 5/5. Les sentiments qu'il avait pour elle n'étaient pas réciproques. Elle avait besoin de lui, elle respectait ses compétences, elle appréciait son aide. Cela suffisait à Ethan. Madame Sandra lui parlait comme à une personne. Peu d'adultes en faisaient autant. Soit ils essayaient de le prendre de haut, soit ils étaient tellement terrifiés par son génie époustouflant qu'ils évitaient carrément d'engager la conversation avec lui. Ou alors ils ressemblaient à ses parents. Tous deux essayaient de discuter avec lui, mais avec l'air de serrer les dents en permanence. Pas Madame Sandra. Elle parlait avec chaleur, avec ses inflexions mélodieuses dont il ne se lassait pas. Et elle sentait l'orange. Il n'en avait jamais parlé à personne, mais il avait réussi à lui faire dire le nom de la lotion qu'elle utilisait. Après quoi, il en avait acheté un plein carton sur Internet, rien que pour pouvoir sentir son odeur quand elle n'était pas là. Il avait caché le carton dans le placard de son père, derrière tous les costumes que ce dernier ne portait jamais, parce qu'il avait depuis longtemps compris que sa mère fouillait quotidiennement sa chambre. Elle se donnait beaucoup de mal, sa mère. Avoir un enfant aussi brillant ne pouvait pas être facile. Cela dit, ce n'était pas sa faute s'il était aussi intelligent. C'était de naissance. En novembre, après avoir déduit que Madame Sandra s'inquiétait des agissements de son mari sur Internet, puis s'être aperçue que le mari était étonnamment calé en informatique, Ethan avait estimé qu'il devait aller plus loin pour protéger son enseignante préférée. Dans un premier temps, il avait pensé à son oncle, le seul adulte qu'il jugeait intelligent. S'agissant d'ordinateur, oncle Wayne était une pointure. Mieux encore, il travaillait dans la police d'État, de sorte que si le mari de Madame Sandra se livrait à des activités illégales, l'oncle Wayne pourrait le mettre en état d'arrestation et le mari de Sandra disparaîtrait. Une excellente idée dans la tête d'Ethan. Un de ses meilleurs plans. Sauf que le mari de Sandra n'avait pas disparu. Ni d'ailleurs l'oncle Wayne. Celui-ci avait été soudain pris d'un engouement persistant pour les compétitions de basket inter-école. Tous les jeudis soirs, l'oncle Wayne se pointait au collège et Madame Sandra et lui s'éloignaient, le laissant seul avec cette peste de Ree. Ethan avait commencé à être contrarié par les jeudis soirs. Il ne fallait pas 3 mois de rencontres hebdomadaires pour pirater un ordinateur. Lui aurait fait ça en moins de 5 minutes, zut! Alors l'idée avait germé. Peut-être après tout qu'il n'avait pas besoin de son oncle ou d'une intervention de la police d'État. Peut-être qu'il lui suffisait de créer un petit programme. Un cheval de Troie, on appelait ça. Il pourrait le planquer dans un courriel, qu'il enverrait à Madame Sandra, et le cheval de Troie ouvrirait un accès à son ordinateur rien que pour lui. Il pourrait rentrer dedans. Il pourrait voir ce que le mari de Sandra fabriquait réellement. Il pourrait sauver la mise. Sauf qu'Ethan n'avait jamais vraiment rédigé un tel programme. Alors il avait dû commencer par étudier, puis tester, puis amender. 3 semaines plus tôt, il avait été prêt pour le lancement. Il avait écrit à Madame Sandra un petit message innocent avec quelques liens dont il pensait qu'il pourrait lui être utile pour ses cours. Puis il avait inséré le programme et attendu. Il avait fallu 2 jours avant que Sandra n'ouvre le message, ce qui l'avait un peu agacé. Les enseignantes ne sont-ils pas censées être plus réactives que ça ? Mais le cheval de Troie avait franchi les portes et le virus informatique s'était immédiatement installé sur le disque dur de Madame Sandra. Ethan l'avait testé le 3e jour et, victoire, il avait accès à l'ordinateur des Jones. Désormais, il pourrait tranquillement prendre M. Jones sur le fait, littéralement. Ethan était surexcité. Il allait passer à la télé. Toute une émission sur le petit génie qui avait coincé un pédophile notoire. Il donnerait une interview à Leslie Stahl. Des sites sociaux voudraient le recruter. Il deviendrait à lui tout seul une brigade d'élite assurant la sécurité sur Internet. Un cybersoldat des temps modernes. De fait, les 3 premières nuits, Ethan avait appris des choses sur M. Jones. Beaucoup de choses. Plus qu'il ne voulait réellement en savoir. Mais Ethan ne s'était pas attendu à en apprendre également beaucoup sur Madame Sandra. Et maintenant, il était coincé. Il ne pouvait pas dénoncer M. Jones sans dénoncer Madame Sandra et l'oncle Wayne. Il en savait trop ou trop peu. Or, Ethan Hastings était assez malin pour savoir que c'était très dangereux. Il prit l'iPhone de sa mère, relut les messages, se dit qu'il devrait appeler les secours, reposa le téléphone. Peut-être qu'il pouvait appeler cette policière, la blonde. Elle avait l'air assez cool. Cela dit, comme lui disait toujours sa mère, les mensonges par omission restent des mensonges et il était relativement persuadé que mentir à la police lui causerait des problèmes encore plus graves qu'une exclusion temporaire de l'école et une privation d'ordinateur pendant un mois. Ethan ne voulait pas aller en prison. Mais il se faisait un sang d'encre pour Madame Sandra. Il reprit l'iPhone, relut les messages, poussa un profond soupir. Pour finir, il fit la seule chose qu'il pouvait se résoudre à faire. Il ouvrit une nouvelle messagerie et écrivit « Cher oncle Wayne ». Wayne Reynolds n'était pas un homme patient. Sandra Jones avait disparu depuis plusieurs jours, et pour autant que le criminologue pouvait en juger, les chargés d'enquête arrivaient de Chine à la rame pour la retrouver. Bref, il avait pratiquement été obligé de leur servir Jason Jones sur un plateau, et pourtant, à voir les infos de 17h, il n'y avait eu aucune arrestation. Au lieu de cela, les journalistes avaient flairé la piste d'un délinquant sexuel fiché qui habitait dans la même rue que Sandra. Un jeune mec bizarre et livide avec le cuir chevelu couvert de cloques, qu'ils avaient surpris dans la rue et littéralement pourchassé jusqu'à une vieille maison de plein pied des années 50. « Ce n'est pas moi !» criait-il par-dessus son épaule. « Demandez à ma conseillère d'insertion, ma petite copine était mineure, c'est tout, c'est tout, c'est tout. » Le pervers s'était rué dans la maison et ceux qui, dans une autre vie, avaient été journalistes, avaient pris une demi-douzaine de photos d'une porte close et de fenêtres au store baissé. « Beau boulot, les gars !» Au moins, le père de Sandra était-il entré dans la danse pour dresser de Jason Jones le portrait méprisant d'un homme éminemment dangereux et manipulateur qui avait coupé sa belle et jeune épouse de sa famille. Le grand-père demandait la garde de Ree et avait déjà obtenu un droit de visite qui devait commencer bientôt. Le vieil homme réclamait justice pour sa fille et protection pour sa petite-fille. Les médias gobaient tout ça. Et toujours aucune arrestation. Wayne ne comprenait pas. Le mari était toujours le premier soupçonné, et pour un suspect, Jason Jones avait le profil idéal. Visiblement incapable de fournir des informations crédibles sur son passé, soupçonné par sa propre épouse d'activités peu recommandables sur Internet, connu pour disparaître pendant de longues heures après minuit, dans le cadre d'un travail qui ne lui fournissait pas d'alibi vraiment concret. Mais qu'attendait donc le commandant Warren ? Un joli paquet cadeau enrubanné ? Il fallait que Jason soit arrêté. Pour que Wayne Reynolds puisse enfin dormir la nuit. Dieu savait qu'au cours des derniers jours, il avait fébrilement purgé son ordinateur personnel, de même que son très haut. Ce qui était comique, parce qu'il était bien placé pour savoir qu'il ne pourrait jamais nettoyer complètement ses appareils. Il aurait fallu qu'il achète un nouveau disque dur pour son ordinateur et qu'il égare son très haut, si possible en passant dessus avec sa tondeuse. Ou alors il pourrait l'écraser avec sa voiture, le balancer dans le port. Le plus drôle, c'était que les profanes s'imaginent toujours que les policiers ont un avantage. C'est leur boulot, donc ils savent exactement quel genre de faux pas peut faire tomber un type. Sauf que c'était bien le problème. Wayne savait mieux que quiconque à quel point il est difficile d'effacer ses traces électroniques. Et le sachant, il avait conscience de la minutie avec laquelle ses faits et gestes seraient examinés au microscope. Il avait passé 3 mois à se promener avec Sandra Jones, rien de plus, rien de moins. Mais s'il ne faisait pas attention, il allait se retrouver étiqueté comme amant et mis en disponibilité, soumis à une enquête interne. Surtout si le spécialiste en investigation numérique égarait son très haut ou renouvelait son ordinateur personnel. Ça ne passerait pas, tout simplement. À ce propos, il se demandait pourquoi la police de Boston n'avait pas encore fait parler l'ordinateur des Jones. Il l'avait depuis près de 24 heures. Environ 5 ou 6 heures pour faire une copie exploitable, ensuite lancer une case. Encore 1 ou 2 jours, conclut-il en soupirant. Il ne pensait pas pouvoir survivre nerveusement à 1 ou 2 journées supplémentaires. Sans parler des conséquences qu'un tel laps de temps pourrait avoir pour Sandy. Il essaya de ne pas penser à ça. Aux affaires sur lesquelles il avait travaillé dans le passé. Aux photos de scènes de crime qu'il voyait souvent dans son métier. Strangulation. Agression au couteau. Balle dans la tête. Jamais elle n'aurait dû partir pour les vacances de février. Wayne poussa un profond soupir. Consulta à nouveau l'horloge, décida de rester un peu plus tard au labo, de travailler encore un peu. Mais son très haut sonna. Il regarda, trouva un message en provenance de l'adresse internet de sa sœur. Il fronça les sourcils, ouvrit le message, À 17h45, Wayne lut la stupéfiante confession de son neveu. Il commença à se faire vraiment du souci. À 18h, Maxwell Black était assis à une table recouverte d'une nappe blanche dans un angle de la salle de restaurant du Ritz. Son canard, accompagné d'une compote de baies sauvages, venait d'arriver et il dégustait un pinot noir de l'Oregon particulièrement savoureux. Bonne chair, excellent vin, service impeccable. Il aurait dû être comblé, mais non. Après sa conversation avec les enquêteurs, le juge était rentré à l'hôtel pour demander sur le champ à son homme de loi. Malheureusement, la jurisprudence que celui-ci avait dénichée n'annonçait rien de bon. La plupart des tribunaux, et le Massachusetts ne faisait pas exception, reconnaissaient les parents déclarés à la naissance comme les titulaires de l'autorité parentale en cas de conflit pour la garde d'un enfant. De sorte que les grands-parents se lançaient dans la procédure sans détenir aucun droit a priori et que les juges se pliaient à la décision des parents en la matière. Néanmoins, Max avait supposé que la disparition de Sandra et le statut de suspect crédible qui en avait résulté pour Jason pourrait influencer le tribunal en sa faveur. Max était en outre convaincu que Jason n'était pas le père biologique de Clarissa, de sorte que, avec la disparition de Sandra, lui-même se trouvait être le plus proche parent vivant de Clarissa. Ça ne pouvait tout de même pas compter pour rien. Et pourtant, on pouvait faire confiance à l'État qui avait légalisé le mariage homosexuel pour considérer l'in loco parentis, autrement dit la personne qui avait rempli le rôle de parent, comme le véritable tuteur légal. Max était donc ramené à la nécessité de prouver que Jason représentait une menace immédiate pour Clarissa, afin de pouvoir remettre en cause le mode de garde actuel. Et cela, croyez-en l'expérience d'un juge, c'était presque impossible à prouver. Pour Max, il fallait qu'on retrouve le corps de Sandy, qu'on arrête Jason. Alors, l'État prendrait Clarissa en charge et il pourrait plaider qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de vivre avec son grand-père biologique. Ça devrait marcher. Sauf qu'il n'avait aucune idée du temps que cela risquait de prendre avant de retrouver le corps de Sandra. Franchement, il avait déjà longé ce port en voiture 4 fois, et pour autant qu'il pouvait en juger, Jason Jones aurait pu balancer le corps de Sandy à peu près n'importe où. Il y en avait peut-être pour des semaines, sinon des mois ou des années. Max en vint même à envisager d'attaquer Jason au civil, où la charge de la preuve était moins lourde. Sauf que même au civil, on peut difficilement engager des poursuites en l'absence de cadavres. Sans cadavre, il était possible que Sandra Jones se soit bel et bien enfuie avec le jardinier et qu'elle coule des jours heureux au Mexique. On en revenait toujours au cadavre. Max avait besoin d'un cadavre. C'est alors qu'il eut une idée. Certes, il lui fallait un cadavre. Mais fallait-il nécessairement que ce soit celui de Sandra? À 19h45, Aidan Brewster se trouvait à la laverie automatique où il finissait de plier sa dernière fournée de linge. Devant lui, 4 piles de t-shirts blancs, 2 piles de jeans et 12 douzaine de piles plus petites, slips blancs et chaussures de sport à bandes bleues. Il avait commencé à 18h, quand sa conseillère d'insertion avait eu la bonté de passer le prendre dans sa maison infestée de journalistes pour l'emmener discrètement. Colin avait proposé de le conduire dans un hôtel pour la nuit, le temps que ça se tasse. Au lieu de cela, il lui avait demandé de le déposer dans une laverie en banlieue, quelque part loin de South Boston, un endroit où les journalistes n'auraient aucune raison de le chercher et où un homme pourrait laver ses slips tranquillement. Il avait vu que cette requête avait mis Colin mal à l'aise. À moins que ce ne soit la quantité de sacs poubelles remplis de linge sale qu'il avait chargé dans le coffre de sa voiture pendant que 3 caméramans filmaient depuis le trottoir d'en face. Au moins, quand Colin avait démarré, les photographes aussi avaient abandonné leur poste. Inutile de faire le pied de grue devant une maison quand on savait que la cible ne s'y trouvait pas. « Qu'est-il arrivé à ta tête ?» demanda Colin en descendant la rue. « Feu de cuisine. J'ai laissé une assiette en carton trop près d'un brûleur. Des morceaux enflammés se sont envolés et ont mis le feu à mes cheveux, mais j'étais trop occupée à balancer de la farine sur la cuisinière pour m'en apercevoir. » Elle n'avait pas l'air convaincue. « Tu tiens le choc, Aidan ?» J'ai perdu mon boulot, je me suis brûlée à la tête, je suis passée dans les journaux du soir. Non, on peut pas dire, mais merci de poser la question. Aidan, il la regarda pour la mettre au défi de le dire. Qu'elle était désolée, que c'était dommage, que ça allait s'arranger, qu'il fallait s'accrocher, choisir un lieu commun, n'importe lequel. Les formules toutes faites sont toujours de la foutaise. Colin et lui le savaient tous les deux. Elle garda le silence pendant le reste du trajet, le plus grand service qu'elle ne lui ait jamais rendu. Il finit de plier ses serviettes, ses draps, plusieurs dessus de lit et même trois napperons. Si c'était en tissu et que ça se trouvait chez lui, il l'avait lavé à l'eau de Javel. Que les policiers ruminent un peu là-dessus. Qu'ils le haïssent un peu. Après ça, il avait l'intention de retourner chez lui pour faire ses bagages. Il allait fourrer tout ce qu'il possédait en ce bas monde dans quatre sacs poubelles noires et mettre le cap au large. Voilà, rideau, fini. Que sa conseillère d'orientation lui court après, que la police s'arrache les cheveux pour trouver un autre délinquant sexuel fiché. Il avait suivi les règles et voilà où ça l'avait mené. Il avait la police sur le dos. Ses anciens collègues avaient essayé de le démolir et son voisin, Jason Jones, lui foutait carrément les jetons. Sans parler des journalistes. Aidan voulait se casser. Salut, adios, bye bye. Ce qui n'expliquait pas pourquoi il restait là, assis par terre dans une laverie cradingue, à faire claquer son élastique vert, cramponné à un stylo bille bleu. Déjà 3 minutes qu'il regardait la feuille de calepin vierge. Il finit par écrire. « Chère Rachel, je suis un con, tout est de ma faute, tu devrais me détester. » Il s'interrompit, mâcha à nouveau le bout de son stylo, fit claquer l'élastique. « Merci de m'avoir fait parvenir les lettres, peut-être que tu les détestes, peut-être que tu ne supportais plus de les voir. J'imagine que je ne peux pas t'en vouloir. » Il barra des mots, essaya à nouveau, barra encore. « Je t'aime, je t'aimais. J'avais tort, je suis désolée, je ne t'embêterai plus. » « À moins que, » se dit-il, mais il ne l'écrivit pas. Il se força à ne pas l'écrire. Si elle avait eu envie de le voir, elle aurait pu le faire, depuis longtemps. « Alors ne te le fais pas dire 2 fois, Aidan, sois grand, elle ne t'aimait pas, elle ne t'aime pas, tu es allé en prison pour rien, misérable petit abruti de merde. » Il reprit le stylo. « Je t'en prie, ne te fais pas de mal. » Puis, comme une idée de dernière minute, « Et ne laisse pas non plus Jerry te faire du mal. » « Tu mérites mieux. Vraiment, vraiment. Désolée d'avoir tout foutu en l'air. Je te souhaite une belle vie. Aidan. » Il reposa le stylo, relut la lettre, hésita à la déchirer en 1000 morceaux et à tenter un autre feu de joie. Il la garda tout de même en main. Il ne l'enverrait pas. Dans le groupe, l'exercice consistait simplement à rédiger le message, pour leur enseigner la compassion et le remords. Des sentiments qu'il éprouvait, supposa-t-il, parce qu'il avait la gorge nouée, du mal à respirer et plus envie d'être assis au milieu d'une laverie minable. Il voulait être chez lui, pelotonné sous des couvertures, dans un endroit où il pourrait se perdre dans le noir sans repenser à cet hiver-là, au plaisir de sa peau contre la sienne, aux dégâts qu'il avait causés dans leurs 2 existences. Il l'aimait encore, pauvre de lui, réellement. Elle était la seule bonne chose qui lui soit jamais arrivée, mais elle était sa demi-sœur. Et il était la pire sorte de monstre qui soit, et peut-être que les gars du garage devraient le démolir. Peut-être que c'était la seule solution avec une tête de nœud comme lui. Il était pervers, il ne valait pas mieux que Wendell, l'exhibitionniste psychotique. Il fallait le détruire. Sauf que, comme tout pervers, il n'avait pas réellement envie de mourir. Il voulait seulement passer cette nuit et peut-être la journée suivante. Alors il rassembla son linge et hila un taxi. « À la maison, James, » dit-il au chauffeur. Puis, assis à l'arrière du taxi, il déchira la lettre en tout petits morceaux qu'il jeta par la fenêtre pour regarder le vent de la nuit les emporter. À 21h05, Jason avait enfin couché Ree. Ça n'avait pas été facile. Avec les journalistes qui campaient là de plus en plus nombreux, ils étaient restés confinés l'essentiel de la journée et Ree, privé d'air et d'exercice, avait besoin de se défouler. Puis, après le dîner, les premiers spots s'étaient allumés et toute leur maison était maintenant suffisamment éclairée pour être vue de la lune. Ree s'était plainte des projecteurs. Elle avait gémi à cause du bruit. Elle avait exigé qu'il fasse partir les journalistes et ensuite, comme cela n'avait pas suffi, elle avait tapé du pied et sommé Jason de l'emmener chercher sa mère tout de suite. En réponse, il avait proposé de faire du coloriage avec elle. Ou alors il pourrait faire de l'origami, voire une stimulante partie de dame. Il ne la blâmait pas de le bouder et de faire les 400 coups dans la maison. Lui aussi, il voulait que les journalistes s'en aillent. Il aimerait reprendre d'un instant à l'autre le cours de son ancienne vie. Merci beaucoup. Il avait lu tout un roman sur les fées à sa fille. Les 100 pages, de la première à la dernière. Il avait mal à la gorge, ne savait plus aligner 3 mots, mais sa fille s'était enfin endormie. Il se trouvait donc seul dans le séjour, les stores et les rideaux soigneusement fermés, à essayer de décider quoi faire ensuite. Sandra restait introuvable. Maxwell avait une ordonnance du tribunal pour venir voir lui, et lui était toujours le principal suspect dans la disparition de sa femme enceinte. Il avait espéré, d'une certaine manière, que sa femme s'était enfuie avec un amant. Il ne l'avait pas vraiment cru, mais il l'avait espéré parce que, de toutes les possibilités, celle-là permettrait à Sandy d'être saine et sauve. Et peut-être qu'un jour elle aurait changé d'avis et lui serait revenue. Il l'aurait reprise. Pour lui, pour lui. Il savait qu'il n'était pas le mari idéal. Il savait qu'il avait commis une terrible erreur pendant ses vacances en famille. Si elle avait éprouvé le besoin de le punir pour ça, il pouvait encaisser. Mais maintenant, alors que le 3e jour s'achevait et que les heures s'écoulaient avec lenteur, il était contraint d'envisager d'autres éventualités. Que sa femme ne se soit pas enfuie. Qu'un drame se soit produit ici même, dans sa propre maison, et que par une sorte de miracle, lui ait survécu. Peut-être qu'Ethan Hastings s'était irrité de voir que son amour n'était pas payé de retour. Peut-être que Maxwell avait fini par les retrouver et que l'enlèvement de Sandy était un stratagème pour obtenir sa petite fille. Ou bien peut-être que Sandy avait un autre admirateur, ce mystérieux informaticien qui s'était lassé d'attendre qu'elle quitte Jason. Elle était enceinte. De lui, d'un autre. Est-ce que c'était ça qui avait tout déclenché? Peut-être qu'avec l'aide d'Ethan Hastings, elle avait découvert qui il était exactement et qu'elle avait reculé devant la perspective de porter l'enfant d'un monstre. Il ne pouvait pas vraiment lui en vouloir. Lui aussi aurait dû être terrifié à l'idée de se reproduire. Mais ce n'était pas le cas. Il avait voulu, il avait espéré. S'il leur avait été donné de connaître cet instant où Sandy lui aurait confié avec nervosité qu'ils attendaient un enfant, il en aurait été touché, rempli de respect, d'humilité. Il en aurait été éternellement reconnaissant. Mais cet instant ne leur avait jamais été donné. Sa femme avait disparu et il ne lui restait que le fantôme de ce qui aurait pu être. Et le spectre d'une arrestation imminente. Il allait prendre sa fille et s'enfuir. C'était la seule chose qu'il pouvait faire parce que tôt ou tard, le commandant Warren se présenterait chez lui avec un mandat d'arrêt et un représentant du juge aux affaires familiales. Il irait en prison. Pire encore, lui serait placé. Il ne pouvait pas laisser une telle chose se produire, ni pour lui, ni pour sa fille. Il monta au grenier. La trappe s'ouvrait dans la penderie de la grande chambre. Il attrapa la poignée au plafond et descendit l'escalier télescopique branlant, puis il alluma une lampe torche et monta dans les ténèbres absolues. Les combles, prévus pour le stockage, mais pas pour le confort, n'avaient qu'un mètre de hauteur sous plafond. Jason, progressant à 4 pattes sur le sol en contreplaqué, contourna des cartons de décoration de Noël jusqu'au coin opposé. Il compta 2 chevrons vers la gauche, puis repoussa la couche d'isolation apparente et attrapa la boîte métallique plate. Il la dégagea et la trouva plus légère que dans son souvenir. Il posa la lampe au sol, souleva le couvercle. La boîte était vide. Billets, pièces d'identité, tout avait disparu, envolé. La police? Sandy? Quelqu'un d'autre? Il ne comprenait pas. Jamais il n'avait parlé à quiconque de son kit d'évasion d'urgence. C'était son petit secret, celui qui l'empêchait de se réveiller en hurlant toutes les nuits. Il n'était pas pris au piège, il avait une porte de sortie, il avait toujours une porte de sortie. Et là, pendant qu'il essayait encore fiévreusement de comprendre ce qui venait de lui arriver et comment ça avait pu lui arriver, il prit conscience d'autre chose. Un bruit, pas très loin, en dessous de lui. Une planche de parquet qui craquait. Dans la chambre de sa fille.